Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis le 11 mai et suite aux annonces du président, toutes les crèches ont pu ouvrir leurs portes. Elles ont dû suivre un protocole détaillé, parfois à l'encontre du bien-être des enfants. Deux responsables de crèches nous expliquent comment elles se sont adaptées. Du côté des assistants maternels, les nounous, ils ont pu garder des enfants même pendant le confinement, témoignage. Les syndicats déplorent, eux, le manque de soutien du gouvernement. Vous entendrez la secrétaire nationale Force ouvrière des emplois de la famille.
Radio B.
Mais avant votre actualité en bref, bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous. Dimanche dernier, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français. La France est désormais en vert. Tous les élèves peuvent reprendre le chemin de l'école dès le 22 juin, sauf les lycéens.
Les frontières vont rouvrir en Europe, excepté pour le Royaume-Uni et l'Espagne. En ce qui nous concerne, dans l'Ain, la frontière avec la Suisse est maintenant accessible à tous. Plus besoin d'attestation.
Mardi 16 juin, appel national à la mobilisation de plusieurs organisations syndicales, paramédicales et médicales. Objectif, obtenir les mesures réclamées, comme la hausse des salaires de tous les personnels, des recrutements ou encore l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits.
À Bourg-en-Bresse, les soignants, habillés en blanc, vont former une chaîne humaine devant l'hôpital Fléria entre 7h30 et 9h30 et entre 13h30 et 14h30, mardi. Vous pouvez soutenir le mouvement en portant du blanc, en l'affichant à votre fenêtre ou dans votre voiture.
Le don du sang a besoin de vous. La mobilisation est en baisse depuis le déconfinement. Alors si vous avez une heure devant vous, rendez-vous à la maison du don à l'hôpital Fléria. Elle est ouverte du lundi au samedi. Plus d'informations au 04 74 50 62 20.
Du côté des pelouses du stade Verchères, l'USBPA prépare sa rentrée en national pour la saison 2020-2021. Jean-Pierre Imbert, le président du club de rugby de Bourg, a confirmé la participation des Violets au nouveau championnat de national. Ce dernier rassemblera 14 clubs. Plus d'infos à venir.
La troisième édition de l'Alter Tour de l'Ain est maintenue. France Nature Environnement de l'Ain, l'association pour la préservation du patrimoine naturel, repart à vélo sur les routes du département du 14 au 23 août. Une dizaine de jours à la découverte d'alternatives pour mieux se nourrir, mieux consommer ou encore mieux bouger. Cette année, le circuit reliera Culose à Bourg-en-Bresse, un circuit ouvert à tous, enfants, adultes, pour une journée ou plusieurs jours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.fne-aura.org.
On connaît maintenant les événements maintenus à Bourg-en-Bresse. Les jeudis du kiosque ont bien lieu à partir du 16 juillet. Il y en a pour tous les goûts, du blues, du rock ou encore des musiques du monde. Le nombre de personnes pourrait être limité, mais les concerts restent gratuits pour tous.
Le spectacle de lumière, Couleur d'amour, revient aussi sur la façade de Brou, du théâtre et sur celle de la mairie. Pour l'hôtel de ville, nouvelle création cette année sur le thème de l'éco-citoyenneté. Le monastère de Brou pourra aussi maintenir son festival à la folie, pas du tout, avec dès le 18 juillet le concert de Renan Luce, entrée payante. Attention, elles sont moins nombreuses cette année.
Par contre, pas de feux d'artifice ou de fête de la musique dans les rues de la ville. L'élu en charge de la culture nous explique les coulisses de la réflexion pour maintenir le plus d'événements.
On a eu différentes étapes, hein. Il y a eu le 11 mai, ensuite il y a eu fin mai, là on va avoir le 22 juin. Donc en fait la complexité, on va dire, pour maintenir les activités, ce qui était notre souhait dans la mesure du possible, c'est à chaque fois de s'adapter, de revoir notre copie. En fait on n'a pas pu donner, on ne s'est pas linéaire hein, cette année l'organisation des événements. Donc Là, je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près calé. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de retour en arrière des règles de distance sociale et que nous pourrons maintenir les événements tels qu'ils sont prévus. Évidemment, on a eu immédiatement des interrogations sur les événements qui regroupaient plus de 5000 personnes parce qu'on avait bien imaginé que ceux-là, ce seraient sans doute ceux qui seraient le plus difficile à mettre en œuvre, même si je ne vous cache pas que l'équipe municipale, je pense comme l'ensemble des Burgiens, est attaché à son feu d'artifice du 14 juillet. C'est un événement qui est toujours très attendu. C'est un événement qui accueille énormément de monde, qui est très populaire. Donc c'est assez difficile de prendre la décision de ne pas le maintenir. Mais néanmoins, aujourd'hui, on ne saurait absolument pas faire sans prendre des initiatives, peut-être pas forcément garantissant la sécurité des visiteurs. Nous avons maintenu tout ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire qui n'entraînait pas, on va dire, une masse importante au même endroit, au même moment. Et puis je crois que naturellement aussi, comme beaucoup de collectivités en France, nous avons eu le souci de soutenir l'activité de nos commerçants, puisque certains, en particulier les bars et les restaurants, ont ouvert depuis peu, seulement depuis le 8 juin. Donc c'est dire si eux, ils ont besoin finalement à ce moment-là particulier de tout le soutien de la collectivité.
C'était Sylviane Chen, élue à Bourg. Pour la fête de la musique qui a lieu ce week-end, pas de groupe dans les rues, mais la musique sera quand même à l'honneur.
On va quand même fêter la musique d'une certaine manière, alors d'une manière qui n'implique pas de regroupement massif, donc en permettant aux commerçants, les bars et les restaurants, de faire appel à des petits groupes, évidemment. Il ne s'agit pas de monter une scène avec 15 musiciens, ce seront sans doute des petites compositions musicales, mais de venir animer les terrasses. Et pour cela, donc, la ville de Bourg-en-Bresse, pendant tout l'été, du début juillet jusqu'à fin août, va mettre en place un dispositif d'aide financière à destination des commerçants pour faire venir les clients, mais aussi pour soutenir l'activité des artistes qui ont énormément souffert, eux, de l'annulation de la plupart de leurs prestations depuis le mois de mars. Donc je crois qu'on essaye de soutenir un petit peu à la fois le commerce et à la fois la culture à travers cette disposition. Et puis donc, sur la proposition de notre radio locale, Radio B, nous allons également tenter de permettre aux artistes qui étaient programmés pendant la fête de la musique d'être entendus et de pouvoir présenter quelques morceaux sur la Radio B.
La fête de la musique, c'est sur Radio B. Retrouvez les artistes locaux dès 18h sur notre antenne dimanche 21 juin, donc sur le 90 FM. Si vous avez un groupe dans l'Ain et que vous voulez être diffusé sur nos ondes, envoyez un mail à contact@radio-b.fr.
Radio B. Radio B.
Pour les parents comme pour les travailleurs de la petite enfance, revenir à la crèche n'était pas sans crainte. Des protocoles stricts du gouvernement ont été appliqués, plus ou moins rigoureusement selon les établissements, et certains professionnels ont aussi dénoncé la non-prise en compte du bien-être de l'enfant, notamment avec le port du masque qui peut effrayer. Pourtant, les crèches sont au maximum de leur capacité d'accueil, avec 10 places pour l'instant, et la liste des parents en attente est toujours aussi longue. Il faut faire preuve d'organisation, on les écoute à l'entrée d'une crèche de la ville.
Vous avez un enfant qui a quel âge ?
J'ai deux enfants, deux jumeaux qui ont 22 mois, qui sont à la crèche.
Pourquoi vous avez décidé de mettre vos enfants à la crèche ?
Moi, je suis personnel prioritaire, je suis dans le médico-social. Donc du coup, on n'a pas trop le choix que de revenir travailler auprès des familles, travailler auprès d'enfants handicapés. Et puis aussi pour le côté être un petit peu dans autre chose, retrouver un petit peu de socialisation. Et ça se passe plutôt bien pour eux, donc c'est bien, les professionnels peuvent les porter, malgré tous les gestes barrières, quand ils ont vraiment besoin, ils les portent, donc je suis plutôt rassurée, leurs besoins sont satisfaits, voilà.
Et vous avez commencé à les mettre à la crèche quand ?
Le 11 mai ? Oui, je crois que c'était autour du 11 mai, il me semble, ou avant, je me souviens plus, mais dans le mois de mai.
Vous, vous attendiez ce moment où vous pouviez les mettre à la crèche depuis un moment déjà ?
Non. Tant qu'on pouvait quand même tenir comme ça, on tenait comme ça parce que c'était sympa aussi de pouvoir passer du temps avec eux. Puis après, le télétravail devenant trop compliqué, oui, on s'est dit que ça pouvait être bien. Mais on a demandé avant comment ça allait se passer pour être sûr que, voilà, ils soient bien et affectivement et tout ça, et apparemment c'était le cas. Donc,
Vous avez eu des craintes au début un petit peu ?
Oui, on a eu des craintes de savoir s'ils allaient pouvoir être accueillis correctement, s'ils allaient avoir un chagrin, si on pouvait s'occuper d'eux correctement. Puis les professionnels nous ont bien rassurés et on l'a vu aussi qu'ils étaient bien, qu'ils étaient contents de venir, donc ça nous a bien rassurés.
Et vos enfants, ils sentent comment, la petite, un peu le cocon ?
Bon, on les sent plutôt bien, ils sont contents de revenir, mais ils sont contents de partir aussi. Puis après, il y a les week-ends, enfin voilà, il y a d'autres moments. Les soirs, on vient les chercher à 4h, donc les journées ne sont pas trop longues. Non, ça s'équilibre bien comme il faut, on a l'impression.
Ça fait maintenant 2 semaines qu'il est à la crèche. On a pu se débrouiller pendant tout le mois de mai, parce qu'il y avait ma belle-sœur qui ne travaillait pas. Donc voilà, elle nous l'a gardé, mais là, ça fait 2 semaines. Il était bien à la maison, de toute façon. Mais bon, en même temps, nous, il fallait qu'on reprenne le travail. Donc, on ne peut pas vivre avec ce qu'on nous donne. Hein. Et puis, comme on nous a bien spoliés au niveau des salaires, hein, ben voilà. Hein, donc, on est bien obligé de retourner au travail.
Votre enfant, il était content de revenir ?
Ben oui, parce que là, par contre, lui, il avait des copains ici. C'est les copains avant tout, quoi. Mais bon, est-ce que la prévention ne vaudrait pas plus que les copains ?
Votre petite fille, elle a quel âge ?
Elle a 2 ans.
Ça fait depuis combien de temps avec le confinement là qu'elle est revenue à la crèche ?
Ah, 15 jours je crois.
Et ça s'était passé comment avant ? Vous l'avez gardée ?
Oui.
Les parents travaillaient ?
C'est moi qui l'ai gardée, ouais. Ça me faisait beaucoup de boulot d'avoir tous les jours, bah oui, parce que je ne peux plus rien faire. Et en plus j'ai perdu mon père pendant le confinement, donc c'était compliqué.
C'était un soulagement qu'elle puisse retourner à la crèche ?
Oui. Oui. Mais surtout pour elle, pour les enfants, c'est important. On reprend la vie normale, quoi.
Dans les crèches de la ville, on s'est adapté aux contraintes sanitaires tout en préservant le bien-être des tout-petits. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Bonjour Chantal.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux responsables dans une crèche. Quand vous avez rouvert votre crèche ?
De mon côté, la crèche a été réquisitionnée, je dirais, pendant le confinement, puisque nous sommes restées ouvertes pour accueillir les enfants des personnels soignants. Et puis, nous avons continué notre activité en reprenant nos petits bambins habituels.
Pour ma part, donc, nous avons réouvert le 11 mai avec donc une restriction au niveau du groupe d'enfants. Donc, nous sommes actuellement à 10 enfants, et nous allons y rester pour un petit moment, je pense.
Et vous étiez combien avant d'enfants ?
Alors, sur la structure, nous accueillons entre 22 et 23 enfants.
Béatrice, vous avez vécu le confinement en crèche. Comment ça s'est passé ?
Donc, nous avons vécu le confinement en crèche aussi avec un groupe limité à 10 enfants et toujours limité à 10 enfants. Ça a été une annonce un peu particulière en pensant qu'on allait toutes fermer toutes les crèches et qu'on allait pouvoir s'en aller. Puis finalement, mes responsables ont annoncé que la crèche devait rester ouverte pour accueillir les enfants des soignants dans un premier temps. Aussi, d'autres crèches pouvaient ouvrir dans un second temps, mais il n'y a pas eu besoin puisqu'il n'y a pas eu de demande au-delà de 10 enfants. Donc nous avons commencé notre aventure en accueillant des enfants que nous n'avions jamais vus, qui étaient déjà pour la plupart accueillis dans des crèches des communes environnantes ou chez des assistantes maternelles.
Comment vous êtes organisée ? Est-ce que vous avez eu des directives à appliquer ?
Alors oui, nous avons eu des directives à appliquer de la protection maternelle et infantile, qui est notre gouverne au niveau des mesures sanitaires. Et puis, nous avons aussi beaucoup inventé au fur et à mesure, parce que les consignes sont arrivées assez tardivement. Nous avions déjà commencé l'accueil des enfants, mais l'accueil s'est fait très progressivement, ce qui nous a permis aussi de mettre en place les mesures au fur et à mesure et de les réfléchir, en fait.
Et comment vous vous sentiez à ce moment-là ? C'était un moment particulier ? Vous deviez garder des enfants que vous ne connaissiez pas, en plus ?
Voilà, c'est ça. C'était un moment très particulier parce que nous n'avons pas l'habitude de faire des accueils en urgence. D'habitude, il y a toujours un temps d'adaptation pour les tout-petits, le temps qu'ils nous connaissent et qu'ils s'adaptent à nous. Et là, il fallait accueillir des enfants du jour au lendemain qui ne nous avaient jamais vus et qui ne connaissaient pas du tout l'environnement dans lequel ils arrivaient. Donc il a fallu beaucoup les rassurer et puis rassurer aussi les parents qui étaient dans une situation pas facile où ils étaient réquisitionnés pour aller travailler, parfois dans des services où ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Donc, il y avait en fait beaucoup de choses à inventer pour ne pas se laisser envahir par la panique ou par des règles sanitaires qui auraient pu empêcher, en tout cas entraver l'accueil de ces tout-petits qui arrivaient un peu, pas paniqués, mais en tout cas avec des inquiétudes et qui avaient besoin vraiment d'être rassurés sur et qu'on réponde vraiment à leurs besoins et qu'on ne mette pas que en avant le côté sanitaire et restrictions et interdictions ou empêchements pour le tout petit.
Est-ce que vous avez retrouvé votre public d'avant ou c'est toujours ces enfants ?
Les enfants des soignants sont repartis quand les crèches ont pu réouvrir, sont repartis dans leur lieu d'accueil respectif. Et nous avons retrouvé les enfants qui ne nous avaient pas vus depuis 2 mois, puisqu'en fait, on n'a qu'un seul enfant de soignant qui est resté habituellement, que l'on connaissait. On est aussi limité à 10 enfants, donc toutes les familles sont obligées de faire un gros effort pour, parce qu'on part nous de 30 familles, donc sont obligés de faire un gros effort pour partager le gâteau pour arriver à 10 places.
Donc c'est entre familles, entre parents qui s'organisent
ou... Alors c'est moi qui propose un petit peu les places que j'ai disponibles entre les familles prioritaires, celles qui peuvent s'arranger autrement. Et là, par exemple, la semaine prochaine, comme je n'arrivais plus avec 10 places, on va réouvrir à 15 places, mais en partageant la crèche en deux pour qu'on ait 2 groupes autonomes avec du personnel autonome de chaque côté, que les enfants ne se mélangent plus et le personnel ne se mélange plus.
Chantal, vous avez rouvert pour le déconfinement.
Oui,
comment ça s'est passé ?
Alors, nous avons réouvert le 11 mai avec des choses un petit peu différentes par rapport à ma collègue, puisque on s'est retrouvé avec un protocole juste quelques jours avant, qu'il a fallu décrypter, etc., et un protocole très, très strict qui nous a amené donc à organiser la structure avec ce protocole-là. On a réouvert avec beaucoup d'inquiétudes de la part à la fois des parents, de la part aussi des professionnels, parce que ce n'est pas une situation simple à gérer. Mais au fur et à mesure, on a essayé d'adapter donc ce protocole très strict avec du bon sens par rapport au public qu'on accueille. Parce que le public qu'on accueille, la petite enfance, évidemment, le rapprochement, la distanciation n'est pas possible à être mise en place. Parce que, comment dire à un petit, écoute, tu vas à 1 mètre minimum de ton voisin, c'est pas entendable. Donc, du coup, on a essayé d'inventer, nous aussi, de notre côté, des façons d'accueillir l'enfant avec vraiment en ligne de mire qu'est-ce qu'un petit enfant et quels sont ses besoins. On est vraiment resté là-dessus, tout en gardant, donc en mettant en place les gestes barrières, bien évidemment, pour les adultes. Après, pour les enfants, évidemment, ça n'est pas possible, quoi. Donc les choses comme les doudous, comme les sucettes, etc., ça c'est permis puisque c'est c'est la priorité d'un doudou, c'est d'être avec l'enfant et pas enfermé dans un casier. Donc on a essayé d'inventer les choses, de mettre en place des petits protocoles, lavage de main évidemment, des choses comme ça. Et on a essayé d'amener aussi beaucoup de plaisir autour de l'enfant, se laver les mains avec des petits jeux. Le port du masque était fait aussi de façon, si un enfant avait du mal à... quand il arrivait, avait peur ou appréhendait, en l'occurrence, l'accueil. Les collègues se retiraient, enlevaient le masque, montraient leur vrai visage de façon à réapprivoiser l'enfant.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place ?
C'est sur le protocole d'hygiène. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport aux écoles, puisque nous, on est déjà habitués à avoir pas mal d'hygiène en crèche. Donc, on a augmenté. On passe beaucoup plus de temps dans cette histoire d'hygiène. Heureusement, on a 10 enfants, donc ça nous permet aussi de prendre du temps avec les enfants. Voilà, on les a retrouvés, je trouve, le fait qu'ils soient restés avec leurs parents, en l'occurrence dans la structure où je suis, on les a trouvés posés. Ce sont des enfants qui sont venus aussi donc parce que les parents avaient besoin, mais aussi parce que les parents étaient moins dans quelque chose d'anxiogène, qui fait que l'enfant est bien revenu à la crèche. Les enfants étaient même contents de revenir, quoi.
Si on revient sur les employés, c'est quoi leur routine d'hygiène? En gros, qu'est-ce qui a changé pour eux? Peut-être Béatrice pour changer.
Alors du coup, nous, là où on a vraiment remis en question, c'était le port du masque. Parce que pendant le confinement, nous n'imaginions pas accueillir des enfants qui ne nous avaient jamais vus en ayant un masque sur le visage. Puisque l'enfant s'identifie à l'adulte en fonction de ses intentions, en pouvant lire son émotion sur le visage de l'adulte. Il devait être capable de pouvoir nous différencier, que chacune ne se ressemble pas toutes, et de savoir qui allait s'occuper de lui. Et aussi, pour un enfant puisse s'exprimer, il faut aussi qu'il puisse lire sur nos lèvres, pouvoir voir qu'est-ce qu'on va lui dire, entendre des sons bien audibles, mais surtout nous reconnaître et voir, pouvoir lire nos émotions. Donc nous n'avons pas porté le masque pendant le temps du confinement. Et ce qui m'a un peu interrogée, où j'ai dû écrire quelque chose parce que ça me semblait très compliqué du coup à revenir en arrière, c'est quand les textes nous ont obligés à porter le masque au moment du déconfinement, où je me suis dit, mais dans la durée, nous on connaît ce qu'est un tout petit, sa réassurance qu'il doit avoir, comment l'enfant dans la durée, est-ce qu'on va pas lui provoquer des choses plus compliquées à gérer que des règles sanitaires pour lesquelles d'autres professionnels, des pédiatres, ont pu témoigner que l'enfant finalement n'était pas porteur sain. C'est pour ça qu'on avait au départ fermé les écoles et les crèches, parce qu'on pensait que l'enfant était porteur sain, mais plutôt que du coup, l'important c'était vraiment ces gestes barrières entre les adultes, c'est-à-dire qu'on maintient un mètre de distance entre chaque professionnel, ça on est capable de le faire entre adultes. En fait, ce qui nous a paru important, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du tout petit, par exemple, ne pas éviter de faire un gâteau d'anniversaire, mais en adaptant la manière de le faire aux mesures sanitaires, en mettant des masques, on a décoré avec des petits chats, on a fait chacun son gâteau pour que l'enfant puisse souffler les bougies sur son gâteau plutôt que de souffler sur le gâteau tout entier. Et puis surtout d'adapter nos activités. Par exemple, on a fait plein d'activités avec des matières qui pouvaient se jeter, comme de la patouille, avec de la maïzena, des choses comme ça, qu'on pouvait jeter après. Et du coup, l'enfant n'était pas empêché. Au contraire, on en a vraiment profité, comme disait ma collègue, pour proposer des activités, parce que du coup, on a un taux d'encadrement qui est plutôt intéressant par rapport à celui que l'on a d'habitude. Donc de proposer des activités, que l'enfant se sente à l'aise et en tout cas accueilli par un adulte qui n'a pas peur d'être contaminé ou qui n'a pas peur de voir l'enfant comme quelqu'un qui peut potentiellement le rendre malade.
Et au niveau des masques aujourd'hui, vous les mettez, le personnel ?
Alors les masques, du coup, nous avons réfléchi à comment s'accommoder de ces règles sanitaires. Donc les masques, évidemment, sont mis ou les visières. Quand un contact rapproché avec le parent ne peut pas être évité, quand on rend un bébé, par exemple, de bras à bras. Par contre, quand l'enfant est capable de passer par le portillon, donc maintenant les parents ne rentrent plus dans la structure, donc on les accueille à l'entrée. Et quand l'enfant est capable de passer tout seul, du coup, on ne met pas de barrière, puisque nous, on est en capacité de maintenir la distance de sécurité entre adultes.
Et vous, Chantal ?
Donc nous, on est un peu dans les mêmes prérogatives. Au niveau du port de masque, on joue avec quand ça pose des problèmes, quand l'enfant est apeuré. On a les prises de température des adultes quand les professionnels arrivent. Les enfants, eux, ce sont les parents qui doivent prendre leur température avant de venir à la crèche, de façon à ce que si un enfant est malade, nous ne l'accueillons évidemment pas en ce moment, quoi.
Si on prend un peu de recul, est-ce que cette crise sanitaire a montré des limites à l'accueil collectif des enfants, ou au contraire, cela a renforcé le but de vos structures ?
Alors, je dirais que nous, ce qu'on a vécu, parce que d'habitude, on accueille 30 enfants, et là, on n'en avait que 10, c'est que le nombre et aussi bien l'enfant, On a un petit qui vivait habituellement avec ses 29 copains. Et là, quand on n'avait plus que 9 autour de lui, il était beaucoup plus cool. Et donc, on se dit que le nombre d'enfants, ça peut aussi peser sur l'attitude du tout petit. Et en tout cas, pour nous, ça va peut-être aussi nous renforcer dans les pratiques de scinder les groupes, de au maximum faire des petits groupes plutôt qu'un grand groupe ensemble, où on se rend bien compte que l'enfant, dès qu'il est confronté à beaucoup d'autres, ça peut le mettre en difficulté sur ce moi-je et qu'il a besoin d'un très grand territoire autour de lui qui est en permanence envahi par l'autre et il n'est pas forcément prêt à ça. En tout cas, oui, ça nous a permis de nous dire qu'on avait des choses à poursuivre. Ça a été une expérience vraiment très, très intéressante.
Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'est que les collègues se retrouvaient avec ce petit nombre. Donc, elles aussi, elles ont pu mettre en place des choses qu'elles ne mettent pas forcément habituellement. Elles avaient le temps de prendre du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Elles avaient aussi du temps pour observer l'enfant parce qu'elles étaient très aux aguets de chaque petit signe. Si l'enfant s'endormait mal, s'il y avait un cauchemar. Voilà, on est aux aguets parce qu'on est là pour répondre aux besoins de l'enfant. C'est vraiment notre mission.
Si on avait suivi strictement le guide ministériel par rapport à ça, c'est le doudou et enlever de l'enfant, il est lavé, désinfecté. Et nous, il nous a semblé que c'était pas possible de faire ça pour le tout petit. C'était un non-sens, en sachant que soit l'enfant, on ne le connaissait pas, il ne nous connaissait pas, donc il avait vraiment besoin de ce doudou pour se rassurer par rapport à la transition, cet objet transitionnel par rapport à laisser la maison et papa et maman à la maison ou au travail. Et du coup, et pour les enfants que nous avons retrouvés au bout de 2 mois, évidemment qu'ils avaient aussi besoin de ce doudou pour à nouveau se dire je suis plus avec papa et maman, alors qu'ils en ont largement bien profité. Et du coup, nous on s'est dit on va jamais prendre le doudou et le laver et le laisser à la crèche, c'est pas possible. De toute façon, le vêtement du doudou, le vêtement de l'enfant, à ce moment-là, on déshabille l'enfant, on lui met des vêtements propres et tout est propre. Mais donc, c'est ce qui était vraiment intéressant, c'est de se questionner et de se dire de pas prendre comme ça ces mesures, à les appliquer strictement et je dirais un peu pas bêtement, mais je veux dire. Mais l'effet d'annonce a été tel que moi, ça m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit, on a eu 2 mois d'expérimentation, en tout cas 2 mois pour réfléchir à ce qu'on mettait en place, comment on le mettait en place, tout en respectant les règles d'hygiène qu'il fallait pour éviter de se refiler les virus les uns les autres. Et tout d'un coup, ces règles d'hygiène sont arrivées très rapidement. C'était le jeudi pour le lundi. Et moi, ça m'a vraiment perturbée en me disant, mais on a su faire, alors pourquoi on ne saurait plus faire? Et c'est là où j'ai dû écrire quelque chose pour dire, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On sait ce qu'est un tout petit, on peut réfléchir à comment on peut appliquer ces règles, mais en y mettant du bon sens, pas parce qu'on a un public spécifique.
Merci beaucoup Béatrice, merci Chantal. Je rappelle que vous êtes toutes les deux responsables dans une crèche. Suite aux annonces du président, les crèches devraient pouvoir accueillir plus d'enfants dès lundi prochain avec un possible assouplissement des mesures. Et maintenant, nous allons écouter le texte écrit par Béatrice sur son travail pendant cette période de pandémie.
Confinement et déconfinement, l'éprouver. Confiture et déconfiture. Confiture, goût sucré, mijoté, qui prend de la saveur. Déconfiture, régression, déraison, amer acide qui fait peur. Ce virus que nous avons convoqué, ce confinement que nous nous sommes imposés, nous a troublés, percutés. Annonce brutale d'un rester chez soi bloqué. Chouette, 15 jours de vacances imposées? J'avoue que l'idée m'a effleurée. Mais voilà que la crèche est réquisitionnée. C'est d'abord un air de corvée. Mais très vite, sans être débordé, on confiture une mixture pour chaque invité. De la sécurité à travers des règles pensées et beaucoup de sérénité pour tous ces accueils obligés. Des parents soucieux ou dépités qu'il faut aider et rassurer. Des enfants apeurés, précipités, qu'il faut apprivoiser et sécuriser. Des mains tendues sont vite arrivées avec leur lot d'angoisse à apaiser, mais aussi avec une envie forte d'accompagner. 18 colibris ont ainsi tour à tour œuvré pendant 2 mois d'affilée. Pour construire une chaîne de solidarité, vaincre cette angoisse d'être contaminée et ne pas, auprès des parents et des enfants, la projeter. Chacune sait aux familles présentées, chacune a, à l'enfant su verbaliser, chacune s'est projetée dans des activités, une continuité s'est formée, un nouvel espace s'est créé. C'est ainsi qu'un goût sucré est né pour le plaisir d'être là et de participer, pour aider ces tout-petits à s'adapter et aux parents à se décontracter. Quand le doute s'est parfois installé dans des postures à adopter pour assurer un espace suffisamment sécurisé, mes responsables m'ont assuré pour valider les choix proposés et accepter un « entre les lignes adoptées ». Et puis le déconfinement s'est annoncé. Soulagement, mais rapidement remplacé par un rythme accéléré pour tout arrêter ce que nous avions pris le temps de mijoter. 44 pages de texte en 48 heures ont débarqué. Ministère, conseil départemental, CHSCT, tout le monde y va de ses données et remet en cause notre sérénité. Fin de notre aventure et des confitures annoncées. Un échec de ce qui s'était inventé se bouscule avec des parents qui ne cessent de nous féliciter. Ce qui était devenu presque une insouciance bien méritée est revenu en boomerang nous déstabiliser, réinterroger les peurs, les renforcer et m'indiquer que rien n'était gagné. Mais je ne suis pas pour autant résignée de cette expérience que je ne pouvais pas d'un trait balayer parce que beaucoup de collègues s'y sont engagés. Un protocole m'a inspirée et c'est ce protocole que j'ai essayé de vous raconter précédemment.
C'était un texte de Béatrice, responsable dans une crèche. On le rappelle, les écoles rouvrent pour tous le 22 juin, mais d'ici là, pour occuper les enfants, le centre social d'Évennes propose des activités pour les primaires. Vendredi 19 juin, c'est la balade pour découvrir la forêt de Seillon pour les CM1 et les CM2. Inscription au centre social d'Évennes.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
La crèche, l'un des modes de garde, mais ce n'est pas le numéro 1 en France. En tête, les assistants maternels. On compte plus de 300 000 assistants maternels en France. Dans l'Ain, ils sont 4 600. Pendant le confinement, ces derniers ont pu continuer leur activité. Des dérogations étaient aussi possibles pour garder 6 enfants de moins de 3 ans contre 4 en temps normal. Pouvoir ou pas garder des enfants, dans quelles conditions ?
Christelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes assistante maternelle à Bourg depuis une dizaine d'années. Vous gardez 4 enfants. Alors, en quelques mots, en tant qu'assistante maternelle, quelle a été votre réaction à l'annonce du confinement ?
Eh bien, moi, je ne savais pas trop si j'allais travailler ou pas, puisqu'on avait quand même le droit de continuer notre profession. Le problème ne s'est pas posé, parce que moi, les parents des enfants que j'accueille ont été au chômage partiel. Donc, comme ils étaient chez eux, ils ont gardé leurs enfants. Mais sinon, j'aurais continué. Si les parents avaient travaillé, j'aurais continué à accueillir leurs enfants.
Vous n'aviez pas de crainte particulière sur comment exercer votre métier dans ce contexte particulier ?
Ben, je l'aurais pas fait sereinement. Parce que c'est vrai que on savait pas trop, on n'avait pas de consignes, on savait pas trop comment il fallait procéder. Après, c'était surtout pour les enfants, parce que nous, si on portait un masque, en principe, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que si on gardait plusieurs enfants, pour ce qui était le plus compliqué et qui est le plus compliqué maintenant, c'est la distanciation entre les enfants, quoi. Parce qu'ils aiment bien jouer entre eux. Et ça, je ne vois pas du tout comment on pourrait leur respecter cette distanciation toute une journée.
Donc, je le rappelle, donc c'est le conseil départemental qui accorde l'agrément, c'est-à-dire l'autorisation pour pouvoir garder des enfants à son domicile. Et donc, quelles informations vous avez eues du département au moment donc de ce confinement ?
Alors nous, on avait juste comme information du fait qu'on pouvait continuer à exercer notre profession, à travailler, à accueillir les enfants, sans protocole de soins ni règles, donc voilà, mais c'est tout, sinon on n'avait pas d'autres informations. Si, on nous a informé qu'on pouvait garder exceptionnellement jusqu'à 6 enfants, on pouvait avoir une dérogation pour garder 6 enfants.
Puisque normalement, on ne peut garder que jusqu'à 4 enfants en même temps.
Maximum 4 enfants en même temps.
Donc là, ça montait jusqu'à 6. Et est-ce qu'il y avait des consignes particulières, le fait que vous passiez, qu'il y avait cette possibilité de passer de 4 à 6 enfants ?
Ils nous conseillaient de mettre un enfant par chambre, mais à moins d'avoir 6 chambres, sinon ce n'était pas possible. Mais il n'y avait pas de consigne particulière. Non.
Donc sans enfants à garder, vous étiez donc en chômage technique. Quelles conséquences pour vos contrats ?
Alors nous, on était payés à 80%. Donc c'est notre employeur qui faisait l'avance des 80%. Et ensuite, l'employeur était remboursé.
Une fois la date du 11 mai connue pour le déconfinement, est-ce que ça a été pour vous une évidence de reprendre votre activité ?
Oui, tout à fait, parce que déjà j'avais un peu envie de reprendre. les parents aussi étaient demandeurs. Et puis là, on avait eu le temps de se préparer quand même à la reprise. Là, on a reçu un protocole. Donc j'ai fait passer aux parents qu'ils aient le temps de lire pour savoir ce qui allait être mis en place. Et puis si on suivait bien toutes les règles, je pense qu'on limitait les risques de transmission. À part pour la distanciation.
Donc vous disiez à part pour la distanciation, donc.
Mais bon, après, moi, j'avais pas de réticence de ce côté-là parce que je savais que les parents avaient bien respecté le confinement, donc étaient restés chez eux avec leur enfant, que l'enfant n'avait vu personne d'autre. Donc, pour moi, il n'y avait pas de risque. J'avais fait très attention aussi. Donc, moi, j'étais persuadée de mon côté de ne pas avoir le Covid-19. Et je savais que pareil du côté des parents et des enfants, que c'était donc je savais quoi. Pour moi, j'étais confiante. Et puis comme j'ai repris le travail et que j'ai bien respecté les règles, donc on allait juste se promener dans les jardins. On emmenait un ballon de la maison, quoi. Ils n'ont pas touché les jeux, ils n'ont pas désinfection de l'ascenseur, de toutes les portes avant de toucher. Donc après, pour moi, si on respectait bien ces consignes, il n'y avait pas de risque. Donc, j'étais confiante.
Vous avez parlé donc d'un protocole qui est arrivé donc pour préparer cette reprise. Donc, c'était un protocole que vous avez eu du département ?
Du département, oui.
Qu'est-ce qu'il prévoyait ?
Alors, déjà, toute la désinfection de notre logement avant d'accueillir l'enfant, la désinfection le soir, le lavage des mains très, très fréquent. Après, il y a beaucoup de choses qui me paraissaient logiques. Et puis aussi la distanciation entre les parents. Donc, on demandait s'il y avait des parents qui étaient censés arriver le soir ou le matin en même temps, de décaler les horaires pour que les parents ne se croisent pas. Ou sinon, les accueillir dehors pour pouvoir respecter la distanciation. Nous, le port du masque, dès qu'on ne peut pas respecter la distanciation de 1 mètre avec les enfants, donc c'est-à-dire quand on est proche d'eux, pendant les repas, pendant le change. Sinon, après, quand on peut être plus loin, on peut enlever le masque. J'ai trouvé ça bien conçu, bien fait. Voilà. Sauf qu'on nous demandait de porter des masques et c'est vrai qu'on les a eus que 15 jours après le déconfinement du 11 mai. Mais bon. Je pense que tout le monde avait eu le temps, pendant le confinement, de se fabriquer ses masques et de se fournir des masques.
Donc, ça vous rajoute une charge de travail, donc ce protocole à suivre ?
Oui, par contre, ça rajoute une charge de travail, puisqu'il y a beaucoup plus de nettoyage et de désinfection le soir. Après, il y a des techniques. Moi, je sais que j'ai essayé de mettre des jeux qui n'étaient pas trop, trop fragiles. Comme ça, je peux en mettre une grande partie dans le lave-vaisselle. Voilà, il y a des petites choses comme ça.
Qu'est-ce que vous retenez de votre première journée de garde post-confinement ?
La joie des enfants de se retrouver. Ils étaient vraiment très heureux de... Alors, je ne sais pas si c'était de me retrouver moi, mais surtout leur petit copain. Parce que je pense qu'ils ont... C'était pas facile pour eux. Sur 3 sur 4, ils sont enfants uniques. Donc, et c'est un âge vraiment où ils aiment jouer avec des enfants de leur âge. Bon, c'est vrai qu'ils étaient bien, ils ont fait plein d'activités avec leurs parents de ce côté-là, ils ont vraiment été gâtés. Mais voilà, ils étaient contents de se retrouver. C'était des cris de joie.
Est-ce que vous avez trouvé qu'ils ont changé de comportement ?
Non. Non, ils ont grandi physiquement, ils ont appris des mots, ils sont devenus propres. Mais sinon, le comportement, non. Non, non, non. Ils aiment bien les mêmes choses qu'avant. Ils aiment bien lire des histoires. Ils aiment bien écouter des histoires. Ils aiment bien chanter des chansons, aller se promener. Non, de ce côté-là, il n'y a pas de changement.
Et par rapport au protocole à mettre en place ou de voir leur nounou avec un masque.
Alors, ce qu'il y avait de bien dans le protocole, et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, il nous conseillait d'envoyer une vidéo, une photo à l'enfant de nous avec un masque, pour pas que ça soit un choc quand le premier jour de la reprise. Donc, voilà, on a pu faire ça. Moi, je ne l'ai pas fait parce que personnellement, je les ai croisés pendant le confinement. On s'est croisés un peu en ville, etc. Donc, ils m'ont déjà vu avec un masque. Mais sinon, ça, c'était une bonne idée. Et non, vraiment, les enfants s'adaptent vraiment très, très bien, quoi. Les parents leur avaient bien expliqué. Et le port du masque ne les a pas dérangés. Se laver les mains, bon, bah, ils avaient déjà l'habitude. Je se lave un petit peu plus souvent les mains, mais ça, ils aiment bien. Donc, pour eux... À part le fait qu'on ne peut pas aller dans les squares, mais sinon le reste, je pense pas que ça ait eu de conséquences pour eux.
Vous aviez dit qu'ils étaient contents de se retrouver. En quoi, selon vous, c'est important, le fait qu'ils revoient d'autres enfants?
Eh bien, en plus, moi, les enfants que je garde vont aller à l'école à la rentrée. Donc, c'est vrai que déjà, c'est bien pour eux de s'habituer à vivre en communauté, quoi, prêter les jeux, à faire des choses ensemble. Donc, c'est vrai que... Et puis, c'est un âge où ils aiment le contact avec les autres, où ils apprennent la sociabilité. Donc, pour eux, c'est très important.
Comment vous envisagez la suite en tant qu'assistante maternelle ?
Là, on n'a pas pu reprendre le relais.
Donc, le relais d'assistant maternel.
Voilà, relais d'assistante maternelle.
Donc, c'est un lieu où les assistants maternels se retrouvent.
Le matin, il y a une animatrice qui fait des activités. Donc, soit on fait des activités manuelles, on fait de la peinture, on fait plein de choses. Soit il y a aussi, un matin, c'est activité motricité dans une salle. Donc, il y a tout équipé avec des matelas, on leur apprend à enjamber, à passer dessous, une piscine à balles, il y a un toboggan, ils font plein de choses. Donc, et là, ils se retrouvent en une vingtaine d'enfants. Donc, ça, c'est aussi bien pour leur apprendre à vivre en communauté. Et puis, on fait plein d'activités qu'on ne peut pas faire chez nous. Donc, ça, c'est dur. De ne pas pouvoir reprendre, ça, c'est vrai que ça manque. Alors, je me dis que si plus tard, on ne peut plus faire ça, c'est vrai que c'est contraignant. Et puis nous, personnellement, parce qu'on est quand même un métier où on est seul chez nous, c'est vrai que ces jours de les matins où on se retrouve, on peut dialoguer avec l'animatrice qui peut nous donner des conseils, des idées. On peut se donner des idées entre nous. Et puis, on peut discuter entre adultes un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est un moment important pour nous. Donc, j'espère qu'on pourra reprendre en septembre.
Christelle, merci.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes assistante maternelle à Bourg-en-Bresse.
Christelle n'a pas accueilli d'enfants pendant le confinement. Les parents en chômage partiel ont gardé leurs enfants à la maison. Partout en France, des assistants maternels ont continué leur activité. Véronique Delettre, secrétaire nationale du syndicat Force ouvrière des emplois de la famille, dénonce leurs conditions de travail pendant cette période. Parfois plus d'enfants, pas de protection et globalement plus de charges de travail pour nettoyer leur domicile.
Que pouvez-vous dire sur la situation des assistants maternels en cette période de pandémie ?
Par rapport au gouvernement, je dirais que c'est le scandale de l'année, parce qu'on a demandé aux assistants maternels d'accueillir, de continuer à travailler. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Les assistants maternels ont fait front. La seule chose, c'est qu'on leur a donné la possibilité de travailler avec 6 enfants de moins de 3 ans, donc sans dérogation. Et sans protection, surtout. Donc, alors, à un moment donné, on nous a dit que les enfants pouvaient être porteurs. Après, on nous a dit le contraire. Est-ce que c'est pour noyer le poisson ? On n'en sait rien. Mais en tous les cas, elles ont travaillé sans protection depuis le mois de mars. Voilà.
Vous dites sans protection, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de masque ?
Tout à fait.
Donc, il n'y avait pas de consigne après particulière ou d'aide particulière concernant donc la possibilité d'accueillir plus d'enfants.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'elle pouvait accueillir 6 enfants de moins de 3 ans avec la possibilité d'en avoir 8, y compris leurs propres enfants. La seule chose, c'est qu'elle devait envoyer un courrier en disant « voilà, j'ai 2 enfants de plus à la PMI, protection maternelle infantile », mais comme les PMI étaient fermées, donc vous comprenez la suite. Tout au long de l'année, les asthmatiques, quand elles demandent une dérogation, c'est très compliqué d'en avoir une. Et puis là, subitement, il n'y avait même pas besoin de dérogation. Elles pouvaient accueillir sans problème, et ça jusqu'au 31 juillet 2020.
Quelles difficultés ont été rencontrées par les assistants maternels pendant ce confinement, les assistants maternels qui ont continué à exercer?
Alors, la très grosse difficulté, c'est les PMI, la protection maternelle infantile, qui n'a pas du tout été à la hauteur, puisqu'elles ont été aux abonnés absents depuis le 17 mars. Donc, ce qui fait que les AS maternelles qui cherchaient des informations, eh bien, ne pouvaient pas les avoir au niveau des PMI. Au niveau des relais assistants maternels, qui étaient également fermés, bon, certains pouvaient répondre, mais heureusement que le syndicat Force ouvrière était là pour apporter les réponses aux questions, parce que sinon, c'était catastrophique.
Quelles étaient les principales questions de ces assistants maternels ?
Eh bien, c'était déjà, est-ce que j'ai le droit d'accueillir ? Est-ce que j'ai le droit de travailler ? Comment je peux travailler ? Alors, sur certaines asthmates ont eu des réponses via des puéricultrices, des réponses qui ont d'ailleurs été complètement erronées. Et d'ailleurs, les puéricultrices, certaines PMI se sont fait recadrer par la DGCS. La DGCS, c'est la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Donc, elles se sont fait recadrer parce que il y en a qui ont dit aux assistantes maternelles oui, vous pouvez accueillir, à d'autres non, vous ne pouvez pas accueillir. Donc, il faut dire non aux parents. Simplement, on ne dit pas non comme ça, parce que non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on démissionne. Donc, vous comprendrez que ça engendre de très grosses difficultés.
Et est-ce qu'elles ont, au fur et à mesure, elles ont pu recevoir des protections pendant le confinement pour exercer correctement leur métier ?
Le syndicat Force ouvrière a envoyé un courrier à tous les départements de France pour les mettre aussi face à leurs responsabilités. Alors certes, ce n'est pas uniquement aux conseils départementaux, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les employeurs ont aussi un rôle à jouer. Mais aujourd'hui,
donc les parents,
personne n'a donné de masque, à part l'IRSEM, et elles viennent de recevoir le masque de l'IRSEM la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est un masque qu'elles ont reçu par leur caisse de prévoyance, c'est tout.
Certains départements vous ont répondu ?
Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Donc voilà, c'est très simple. Par contre, on peut voir quand même dans la presse que depuis, ça a fait bouger un petit peu les choses, parce que on a vu des départements qui ont commencé à distribuer des masques. Donc on suppose que c'est aussi un petit peu grâce au courrier que nous avons envoyé.
Donc ce sont les départements qui autorisent ou pas une personne à devenir assistant maternel. Les parents sont les employeurs, mais qui est responsable pendant cette crise sanitaire ?
Responsable, forcément, l'employeur, il a sa part, mais les pouvoirs publics aussi, et le gouvernement. Le gouvernement a mis des choses en place comme l'activité partielle. L'activité partielle à 80% et non pas 84% comme tous les salariés. L'activité partielle pour soi-disant, parce que les parents employeurs qui eux-mêmes étaient en chômage partiel avaient donc une diminution de leur salaire, donc pour éviter des ruptures de contrat, on a mis une activité partielle aux assistantes maternelles. Sauf que aujourd'hui, où moi je suis vraiment très en colère sur ce sujet, c'est que j'ai demandé aux assistantes maternelles via les réseaux s'il y avait des ruptures de contrat. Et déjà, là, pour l'instant, on est en train de comptabiliser. Sur 400 réponses, nous avons 170 ruptures de contrat. C'est énorme. C'est scandaleux.
Est-ce que vous pouvez dire qu'il y aura un avant et après crise sanitaire pour la profession d'assistant maternel ?
Ah bien, je le dis depuis le début qu'il y aura un avant et un après, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que malheureusement, nous avons des assistants maternels qui quittent profession, parce qu'elles n'ont pas supporté la manière dont elles ont été traitées par le gouvernement, par le service public et par les employeurs. Donc forcément, il y aura un avant et un après. Ensuite, les contrats de travail, les ruptures de contrat, c'est pas possible. Mais il y aura un avant et un après également dans les négociations, je peux vous l'assurer.
C'est-à-dire ?
Nous, Force ouvrière, nous négocions tout au long de l'année sur la convention collective, sur les droits des assistantes maternelles. Ce ne sera plus pareil. On ne se laissera pas faire et on va imposer, on va vraiment défendre les droits des assistantes maternelles et il va falloir que ça bouge.
Sur quel point il faut insister pour qu'ils puissent continuer à exercer sereinement leur métier ? Quel point insister après cette crise sanitaire ?
Alors, notamment sur les frais d'entretien, parce que il faut savoir que maintenant, les assistantes maternelles, après leur journée de travail, elles ont déjà au moins pour une heure et demie de nettoyage, désinfecter les jouets, et ça se fait maintenant tous les jours. Il y a des produits qu'elles sont obligées d'acheter. Nous, on a fait une moyenne, cette moyenne revient à plus de 100 euros par mois. Il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un les aide à payer. C'est pas possible qu'elles payent tout de leur poche. Donc, évidemment, moi, j'ai demandé cette semaine à la FEPEM, j'ai fait la proposition suivante, d'augmenter les frais d'entretien qui sont basés sur 85% du minimum garanti. J'ai demandé que ce soit fait sur 90%. On m'a dit qu'on ne me suivrait pas parce que ce n'était pas aux employeurs de payer. Non, là, c'est pas possible. Les employeurs doivent aussi payer, même si les services publics doivent mettre la main à la poche, les employeurs également, je suis désolée.
Pour terminer, en quelques mots, quelles mesures auraient été indispensables pour les assistants maternels pendant cette crise sanitaire ?
Bien, il aurait fallu être au plus proche des assistantes maternelles, faire plutôt aussi un guide de déconfinement. La DGCS a fait quelque chose d'imbuvable, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien heureusement, nous en branche, on vient de terminer un guide paritaire. Il vient de sortir, il vient d'avoir l'aval aussi du ministère du Travail. Mais bon, tout ça arrive un peu tardivement. Mais après tout, personne, bien sûr, pouvait se douter de ce qui allait se passer. Donc forcément, il faut du temps aussi aux choses. Mais je pense qu'il faut une meilleure écoute. Il va falloir montrer que les assistantes maternelles sont des salariés, de véritables salariés. Ce ne sont pas des salariés à part, mais des salariés à part entière.
Véronique Delettre, secrétaire nationale du syndicat Force ouvrière des emplois de la famille. Le syndicat Force ouvrière a envoyé un courrier aux présidentes, présidents des départements pour alerter, je le cite, des PMI, protection maternelle infantile relativement silencieuses dans leur soutien aux assistants maternels pour faire face aux contraintes liées à la crise sanitaire. Muriel Lugas-Giraud, première vice-présidente du département de l'Ain en charge des affaires sociales, insiste, le département n'est pas leur employeur.
Nous ne sommes pas les employeurs des assistants maternels. Ça, je crois qu'il faut le dire et le redire. Nous ne sommes pas les employeurs des assistants maternels. Ça veut dire que, à ce titre-là, nous sommes là pour autoriser, pour contrôler, pour aider, pour accompagner. Mais notre rôle s'arrête là, normalement. Donc, au niveau des différents dispositifs à mettre en place dans les différents foyers des assistants maternels, c'est pas le département qui peut intervenir, ni qui doit, ni qui peut. Quand on fait des remarques à certains assistants maternels en termes d'équipement pour accueillir les enfants, c'est pas le département qui va acheter les équipements pour les mettre à disposition. Après, quand on a vu qu'il y avait ce problème de masques, tout de suite on en a commandé et ces masques, on les a fournis et on continue à les fournir au niveau du département. Donc vous voyez, en termes d'accompagnement, on est allé au-delà de ce que notre position, nos compétences nous demandent de faire. Donc on ne peut pas dire que le département n'a pas été aux côtés des assistants maternels, je ne pense pas.
Au sujet de la PMI, la protection maternelle infantile, Muriel Lugas-Giraud l'assure, les agents administratifs du département de l'Ain, les péricultrices, ont été là pour répondre à toutes les questions et ne pas laisser les assistants maternels sans réponse. Au total, le département a mis 120 000 masques à disposition des 4 600 assistants maternels de l'Ain, soit 2 par jour pour une semaine d'activité. À ce jour, la moitié a été distribuée. Des assistants maternels ont pu les récupérer via un système de drive fin mai. Aujourd'hui encore, la distribution continue sur rendez-vous. Il suffit de contacter le département. Pour la réouverture des relais d'assistants maternels, les RAM, le département attend encore des directives de l'État.
À vous les Burgiens, c'est terminé. N'oubliez pas, dimanche soir, dès 18h, les groupes locaux prennent l'antenne pour une fête de la musique sur le 90FM. Si vous avez un groupe et que vous voulez être diffusé dimanche, contactez Radio B. Bonne semaine sur nos ondes.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.